Bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux.
Tout simplement universel.
Le conte.
La nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ceci, ciel, si ceci,
qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline.
Sur Radio Bartas.
Peau de phoque, peau d'âme. En un temps qui fut, qui est maintenant à jamais disparu et bientôt sera de retour, les jours de ciel blanc, les jours de neige blanche se succèdent et les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des ours ou des chiens. Ici, rien ne pousse pour rien. Le vent souffle avec une telle violence que les gens ont fini par mettre exprès de biais leur parka et leur mamelek, c'est-à-dire leurs bottes. Ici, les paroles gèlent en l'air et l'on doit casser des phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit. Ici, les gens vivent dans l'abondante chevelure de grand-mère Anuluk, la vieille sorcière qui est la terre en personne. Et c'est là, sur ce sol, que vivait un homme. Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé deux abîmes sur ses joues. Il essayait de sourire, d'être heureux. Il chassait, posait des pièges, et son sommeil était bon. Mais il éprouvait le besoin d'une compagnie humaine. Parfois, quand un phoque approchait de son kayak, il se rappelait ces histoires qui disaient qu'autrefois, les phoques étaient des êtres humains et que leurs yeux, seuls souvenirs de cette époque, étaient encore capables de reproduire ces regards-là, ces regards sauvages, sages et aimants. Alors, il lui arrivait de ressentir sa solitude de façon si poignante que les larmes ruisselaient au long des crevasses de son visage. Un soir, il chassa après la tombée de la nuit, mais il était toujours bredouille. La lune montait dans le ciel et illuminait la banquise lorsqu'il arriva en vue d'un rocher qui se dressait sur la mer. Son œil exercé put y distinguer un mouvement des plus gracieux. Il s'approcha doucement en pagayant, et là, sur ce majestueux rocher, dansait un groupe de femmes nues comme au jour de leur naissance. Bon, c'était un homme seul qui n'avait d'amis humains que dans son souvenir, et il resta à les regarder. Les femmes semblaient faites du lait de la lune, et sur leur peau brillaient deux petites taches d'argent, pareilles à celles des saumons au printemps. Leurs pieds et leurs mains étaient longs et très gracieux. Elles étaient si belles que l'homme resta cloué de stupeur dans son bateau, tandis que l'eau venait battre la coque et le rapprocher du rocher. Il entendait les rires de ces femmes superbes. Du moins, lui semblait-il qu'elles riaient, à moins que ce ne fût le rire de l'eau contre la paroi du rocher. L'homme, ébloui, ne savait que penser. Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine comme une dépouille humide disparut soudain et, presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Il se dissimula derrière un affleurement et la fourra dans sa kingwa, c'est-à-dire sa parka. Bientôt, il entendit l'une des femmes crier quelque chose d'une voix qui était la plus belle qu'il eût jamais entendue, un peu comme le chant des baleines au lever du jour, ou plutôt non, c'était comme les louveteaux qui jouaient au printemps, ou plutôt non, c'était mieux que ça. Mais cela n'avait pas d'importance parce que... Ah ! Maintenant, que faisaient les femmes ? Eh bien, elles revêtaient leur peau de phoque. Et une par une, les femmes phoques se glissaient dans la mer avec des petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherchait partout sa peau de phoque, en vain. Quelque chose, il ne savait quoi, encouragea l'homme. Il quitta l'abri du rocher et lança.
« Femme, sois mon épouse. Je suis un homme seul, si seul. »
« Je ne peux être une épouse, » répondit-elle, « car je suis de celles qui vivent Temenquanek, c'est-à-dire en dessous. » L'homme insista.
« Sois mon épouse, »
répéta-t-il.
« Dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque, et là tu pourras partir ou rester, comme tu voudras. »
La jeune fille phoque lui lança un long regard qui avait tout d'humain. Elle dit à regret, « Je viens avec toi. » Et dans cet été, il en sera décidé. Ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Ohoruk. C'était un enfant souple et grassouillé. En hiver, sa mère lui racontait des histoires sur les créatures qui vivent sous la mer. Tandis qu'avec son long couteau, son père découpait un ours ou un loup en petits morceaux. Quand sa mère portait l'enfant pour le mettre au lit, elle lui montrait les nuages qu'on apercevait par le conduit de fumée. Elle lui décrivait les formes qu'il prenait, sauf que, au lieu de les comparer au corbeau, à l'ours et au loup, elle lui parlait des morses, des baleines, des phoques et des saumons, car elle ne connaissait pas d'autres animaux. Mais le temps passant, sa peau vint à se dessécher, desquama puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber, elle devint naluak, c'est-à-dire d'une pâleur mortelle. Elle perdit de ses rondeurs et tenta de dissimuler qu'elle boitait. Chaque jour, sans qu'elle le veuille, son regard devenait de plus en plus terne. Elle se mit à tendre les mains devant elle pour trouver son chemin, car sa vue s'obscurcissait. Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Ohoruk fut réveillé par des cris et se dressa sur sa couche de peau de bête. Il entendit un rugissement d'ours. C'était son père qui réprimandait sa mère. Il entendit des pleurs semblables à un tintement d'argent sur de la pierre. C'était sa mère. « Tu as caché ma peau de phoque il y a 7 longues années et maintenant le 8e hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite. » Gémissait la femme phoque.
« Et toi, femme, si je te la rends, tu me quitteras. »
grondait son mari. « Je ne sais ce que je ferai. Tout ce que je sais... c'est que je dois avoir ce à quoi j'appartiens. »
« Tu me laisseras alors sans épouse, et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise. »
Sur ces mots, l'époux rejeta brutalement de côté la portière de cuir et disparut dans la nuit. L'enfant aimait énormément sa mère. Il eut peur de la perdre et pleura longuement. Il finit par s'endormir avant d'être réveillé par le vent, un vent étrange qui semblait l'appeler « Ohoruk ». Ohoruk. Il quitta son lit si vite qu'il mit sa parka à l'envers et enfila à moitié ses mukluks. Il entendait toujours son nom. Il se précipita comme un fou dans la nuit, semé d'étoiles. Ohoruk. L'enfant courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer, et là, loin sur la mer agitée, il y avait un énorme phoque argenté avec une grosse tête, des moustaches qui tombaient sur sa poitrine et des yeux d'un jaune profond. Ohoruk. L'enfant dégringola la falaise et buta tout en bas sur une pierre, non, sur un ballot qui avait roulé d'une faille dans le rocher. Les cheveux du petit garçon fouettaient son visage comme des milliers de lanières de glace. Oruk. L'enfant déroula le ballot et le secoua. C'était la peau de phoque de sa mère. Il pouvait sentir son odeur. Il porta la peau à son visage et respira son odeur. Et pendant qu'il faisait cela, l'âme de sa mère le traversa comme un vent d'été soudain. Il poussa de douleur et de joie à la fois. Et porta de nouveau la peau à son visage. Et de nouveau, l'âme de sa mère le traversa. Oh ! Cria-t-il encore, car l'amour infini de sa mère le remplissait. Là-bas, le vieux phoque d'argent s'enfonçait lentement sous la surface. Le petit garçon escalada la falaise et rentra chez lui en courant, la peau de phoque volant derrière lui. Il se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, lui et la peau de phoque, fermant les yeux de gratitude, car l'un et l'autre étaient saufs. Elle enfila sa peau de phoque. « Oh non, maman !» s'écria l'enfant. Elle prit l'enfant, le mit sous son bras et, mi-courant, mi-trébuchant, elle se précipita vers la mère rugissante. « Maman, non, ne me laisse pas !» cria Oruk. Et il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant. Oui, elle le voulait, mais quelque chose de plus ancien que lui, de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps l'appelait. « Non, 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 maman !» suppliait le petit garçon. Elle se tourna vers lui et ses yeux étaient emplis d'un amour terrible. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains et lui insouffla sa douce respiration dans les poumons. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plongea sous la mer et s'y enfonça de plus en plus profondément. La femme phoque et son enfant respiraient parfaitement sous l'eau. Ils nagèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des phoques, où dînaient, chantaient, dansaient et parlaient toutes sortes d'animaux. Là, le grand phoque, qui avait appelé Oruk depuis la mer dans la nuit, étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils.
« Comment vont les choses là-haut, ma fille ?»
demanda le majestueux phoque d'argent. La femme phoque détourna les yeux. « J'ai blessé un humain, père, un homme qui a tout donné pour m'avoir. Mais je ne peux retourner auprès de lui, car j'y serai prisonnière. »«
Et le garçon, mon petit-fils ?»
interrogea le vieux phoque d'une voix tremblante de fierté. « Il doit partir, père. Il ne peut pas rester, car son temps parmi nous n'est pas encore venu. » Ainsi, les jours et les nuits passèrent, 7 pour être exact, au cours desquelles la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre. Elle eut de nouveau une bonne vue et redevint bien en chair. Elle nageait sans être handicapée. Et vint le temps de ramener l'enfant à terre. Cette nuit-là, son vieux grand-père phoque et sa mère magnifique le prirent entre eux et nagèrent vers le monde du dessus. Là, ils déposèrent doucement Oruk sur les rochers du rivage, dans la clarté de la lune. Sa mère promit « Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon ulu, c'est-à-dire mon couteau, mes sculptures de phoque et d'otari en pierre, et je soufflerai dans tes poumons un vent pour que tu chantes tes chants. » Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux phoque et sa fille s'arrachèrent à lui et se laissèrent glisser dans la mer. Puis, après un dernier regard, ils plongèrent sous la surface et, parce que son temps n'était pas encore venu, Oruk resta. Le temps passa, il grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. On racontait qu'il en était ainsi parce que, enfant, il avait été emmené dans la mer par les grands esprits des phoques et qu'il avait survécu. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un certain rocher, sur la mer, et semble parler à un certain phoque, une femelle, qui vient souvent près du rivage. Beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais ils n'ont jamais réussi. On la connaît sous le nom de Tankigak, la brillante, la sacrée, et l'on dit qu'elle a beau être un phoque, ses yeux sont capables de reproduire ses regards humains, ses regards sauvages, sages et aimants. Extrait de « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, en livre de poche.